l'intelligence collective, c'est le collectif, c'est pas moi. C'est comment de nos moi, on fait des nous.
Bienvenue dans le podcast des intelligences collectives. Si comme mon invité du jour et moi-même, vous croyez au nous, au créer ensemble, au faire ensemble, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Sophie France, créatrice de l'agence Comarketing, passionnée de marketing et de psychologie, et je pars pour vous à la découverte du vaste monde de l'intelligence collective. Pour cet épisode, j'ai eu envie de parler de démocratie. D'origine brésilienne, l'élection de Jair Bolsonaro en 2018 a été pour moi un électrochoc. Je vis en Alsace, et ici à Mulhouse, les élus portent depuis de longues années la démocratie participative, cette démocratie qui donne plus de place aux citoyens. Ni une ni deux, je me suis rendue dans le bureau de Cécile Sornin, que je remercie pour avoir accepté mon invitation, adjointe au maire de Mulhouse, en charge, entre autres, de la démocratie participative. Je m'excuse pour la qualité du son qui n'est pas optimale, mais je vous invite vraiment à passer outre et écouter l'enthousiasme, la générosité, le pragmatisme et l'expérience de Cécile Sornin sur ce sujet. On a parlé d'envie, d'urgence, de difficultés, de temps long et de l'intérêt de se partager le pouvoir d'agir en déplaçant un par un les obstacles sur le chemin. C'était passionnant et je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Cécile Sornin.
Bonjour Sophie.
Écoute, je suis contente d'être avec toi ce matin. Alors c'est la première interview que je fais sur site. J'ai débuté le podcast pendant le confinement. C'est vrai que j'ai fait toutes les interviews à distance et je suis super contente de faire cette première interview avec toi dans ton bureau à la mairie de Mulhouse.
Eh bien merci, je suis flattée de cette première expérience de la collective.
Ça va être sympa. Alors j'ai l'habitude en fait de prendre un peu le pouls, l'humeur de l'invité avec des inclusions sonores. Et l'idée c'est que je vais te proposer trois sons, et que tu nous dises juste ben voilà comment tu te sens aujourd'hui en en choisissant un et en disant tiens ça me fait penser à ça parce que je suis comme ça ou comme ça.
Allez,
ça te va. Son numéro 1. Son numéro 2. Le son numéro 3. Et là, l'idée, c'est de nous dire, voilà, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas, et ton humeur du moment.
Bon, alors, objectivement, le premier son, pour moi, c'est beaucoup de moteur de voiture. Donc, j'aime bien la notion moteur et avancée, mais je ne suis pas très voiture. Donc, c'est pas celui-là. Le dernier, j'adore la mer et on est à Mulhouse. Je dis toujours qu'il y a tout ce qu'il faut à Mulhouse et que j'aime cette ville. Mais c'est vrai que la seule chose qui me manque, c'est la mer. Donc, je pourrais choisir ça. Mais en fait, c'est très personnel. Mais je suis grand-mère depuis presque 3 semaines. Ah. J'ai vu mon petit-fils 2 fois et je le vois ce soir pour la 3e fois. Donc, bien sûr, les cris ou les enfants de joie. Voilà, c'est plutôt... Alors, pour aujourd'hui, ce sera ça, mais voilà. Super. Mais en même temps, il y a un petit bout des trois, de moi dans les trois. Donc, merci pour cette sélection, Sophie.
C'est une belle affaire, d'accord. Bon, ben, bienvenue au petit-fils, alors.
Merci.
Alors, tu as été adjointe au maire de la ville de Mulhouse en charge de la démocratie participative, de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, après cette nouvelle élection de Michel Lutz, quel est ton nouveau poste? Est-ce que tu as déjà un nouveau poste?
Alors oui, donc je suis toujours adjointe au maire, toujours sur ses compétences, mais en complément, j'ai également la politique de la ville et les centres socioculturels. Et pour moi, c'était très important d'avoir cette intégralité. Alors je ne fais pas seule, hein, il y a 3 conseillers municipaux délégués qui travaillent avec moi, mais on est une équipe de 4 pour ce grand volet-là qui permet objectivement de faire justement de la démocratie participative, de l'accompagnement de projets citoyens ou associatifs partout dans la ville, y compris dans les quartiers, et en s'appuyant sur des partenaires qui doivent être des partenaires naturels de la collectivité, que sont les centres socioculturels. Donc on a vraiment un bel éventail de compétences pour permettre de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens.
Merci beaucoup. pour cette présentation. Est-ce que tu peux te demander, donc tu es élue aujourd'hui, de nous parler un peu de ta vie d'avant, de nous dire quelques mots sur ce qui tu étais avant d'être élue à la mairie de Mulhouse?
Ben, ce que j'étais avant, ce que je suis toujours, parce qu'élue, c'est pas un temps plein et c'est pas une vie seulement. Donc, alors avant, en fait, je suis ingénieur agro de formation, puis je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, j'ai travaillé dans la banque, dans la communication. Et à un moment, parce que j'avais une vie trépidante et je voyais grandir mes enfants, j'ai décidé de retrouver du temps pour eux et aussi de réorienter ma vie professionnelle. Et j'ai passé le concours d'enseignante. C'était au moment que j'arrivais à Mulhouse, donc j'ai enseigné au Coteau, qui est un quartier prioritaire de la ville, pendant 10 ans. Et ça a été une expérience magnifique qui m'a fait comprendre ce que ça voulait dire être née dans un quartier, y grandir. Moi, ce n'était pas mon milieu, donc j'ai beaucoup désappris pour réapprendre. Et je crois que si aujourd'hui je suis l'élu que je suis, c'est aussi grâce à cette expérience-là.
Ok, d'accord. Et pour faire le lien avec ton arrivée à la mairie et la démocratie participative, je ne sais pas si c'est un lien direct ou indirect, mais d'où vient en fait l'impulsion à Mulhouse de la démocratie participative de cette...
Donc je n'y suis pour rien. C'est très ancien puisque c'est une volonté au démarrage de Jean-Marie Bockel, qui était un maire très engagé sur ces dimensions-là. Derrière, en 2014, quand moi je suis arrivée dans l'équipe, Jean Rotner voulait qu'on aille encore plus loin, et c'est à ce moment-là qu'on a développé tout le programme Mulhouse C. Donc et moi j'étais là au début du mandat, je travaillais avec Patrick Puleda, et puis à un moment il a lui-même réorienté sa vie professionnelle. Il a renoncé à son poste d'adjoint et Jean-Rotner m'a proposé de prendre cette délégation, et j'avoue que c'était une chance incroyable parce que voilà, j'aime moyennement la technique, et là d'être au contact vraiment des gens et sur ces thématiques-là où il y avait encore plein de choses à expérimenter, ça a été une chance et de grands moments de bonheur, parce qu'avec de travailler aussi avec des équipes, tu vois, qui nous a aidés, donc tu sais de qui je parle, voilà, Christine Etel, Nathalie Berbet, Florian, Clémentine, ils sont 10, donc et Cécile, enfin, voilà, donc surtout une magnifique aventure humaine, mais qui remonte pour la ville de Mulhouse quand même, à mon avis, à la fin des années 80.
Ouais, c'est assez ancien. Et en fait, moi, je voulais vraiment, alors on se connaît en effet, mais te parler parce que pour moi, Mulhouse est assez un exemple, en tout cas pionnier, dans cette démarche de démocratie participative. Et je me demandais si l'impulsion, elle vient d'un homme, de Jean-Marie Bockel, ou elle vient plutôt de problèmes de souhait de régler des problèmes, ou est-ce que...
Je pense que de toute façon, la sociologie de Mulhouse fait que si on veut être le maire ou l'adjoint ou l'élu de tous les habitants, bien sûr qu'à un moment, on se pose la question de comment on fait participer tout le monde. Donc, il y a un état d'esprit déjà sur la participation. Et après, la sociologie et peut-être les problèmes de désindustrialisation, parce que Mulhouse, après des années très fastes, a connu des années plus difficiles. Donc, je pense que chercher les leviers, et alors bien sûr, il y a les leviers de financement classique, avec que ce soit l'État, enfin, voilà, il y a beaucoup de politiques publiques, mais il y a aussi des gens concrètement sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont leurs besoins et comment on y répond? Et si on se pose ces questions-là, ben on veut bien sûr apporter les réponses avec eux.
Et quand on parle de sociologie, tu parles de diversité. C'est vrai qu'on entend que Mulhouse est une des villes avec le plus de nationalités.
Oui, on parle de 136 nationalités à Mulhouse, mais au-delà de ça, je pense aussi à la paupérisation de la population. Aujourd'hui, Mulhouse, c'est 46% de personnes dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, et depuis 2014, les critères, mais c'est uniquement un critère qui est un critère de densité de pauvreté. Donc voilà, la moitié, quasiment un habitant sur deux à Mulhouse vit dans des conditions difficiles et parfois avec un accès à la langue plus délicat. Et ça, c'est sans mentionner tout ce qui est révolution numérique ou transition numérique, et donc on a bien sûr le problème de fracture numérique à gérer.
D'accord. Et juste pour revenir un peu à l'origine, comment on se dit, quelles étaient les carences en fait de la démocratie représentative? Pourquoi on se dit à ce moment-là, je ne sais pas si tu sais, mais c'est pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on essaye de régler comme problème en disant, on va à Mulhouse aujourd'hui vraiment travailler plus avec le citoyen.
Alors, je pense que ça a commencé plutôt par la jeunesse. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vrai que Mulhouse est une ville D'accord. Il faut appeler un chat. C'est une ville très cosmopolite, mais c'est aussi une des villes les plus jeunes de France, et ça depuis longtemps. Donc en fait, ça a commencé, à mon avis, tu vois, ce qu'on raconte de cette histoire-là que je n'ai pas connue. Moi, je suis pas mulhousienne, je suis pas née à Mulhouse. D'accord. Je suis une mulhousienne de cœur, mais ce qu'on raconte, c'est que ça a commencé plutôt par des conseils de jeunes, et après très vite les conseils de quartier avant que la loi ne les impose. À mon avis, l'envie de proximité, tu vois. Jean-Marie Bockel était un homme qui était sur le terrain, qui était à l'écoute de ses concitoyens. Mais, donc peut-être, et un homme jeune, tu vois, à l'époque, un élu engagé jeune. Donc je pense que c'est ça qui préside aux décisions, voilà, de création de conseils de jeunes, de conseils d'enfants, de conseils de quartier.
Et ces conseils-là, ils étaient déjà, ils venaient pas forcément du pouvoir public, c'était le citoyen qui était déjà organisé en conseil.
Là, à l'époque, c'est plutôt la ville qui décide, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a modifié à partir de 2015, mais le 2014, mais le conseil de quartier est présidé par un élu de secteur, d'un élu de quartier. Donc on est donc quand même dans une volonté de partage et d'ouverture, de proximité, mais on va pas aller jusqu'au bout de la démarche. Bon, ça, il faut donner du temps au temps, il faut que les mentalités évoluent, il faut bien... La démocratie participative, elle est souvent vécue comme un partage du pouvoir, donc il faut des élus qui ont envie de le partager. Donc on voit bien que quand on a un élu qui préside, après ça dépend de la personnalité de l'élu, mais on n'est pas encore complètement dans un partage du pouvoir. Et ça, il faudra attendre l'arrivée de Jean Rottner en 2014, poursuivie par Michel Butz, pour là, tout d'un coup, dire « non, c'est pas un élu qui préside, ça peut être un élu garant de l'intérêt général, mais par contre, pas dans une relation de pouvoir descendante, je vais le dire comme ça. »
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, sur Mulhouse, alors, tu parlais de conseil des citoyens, conseil de la jeunesse, tu peux nous dire un peu les différentes modalités de démocratie participative?
Alors, on a gardé des instances participatives et on s'interroge toujours sur la façon de les faire évoluer au mieux pour que l'habitant s'en saisisse. On a donc un conseil des enfants, on a un conseil des ados, on a un conseil des jeunes. Et après, pour le monde, entre guillemets, adulte, on a le conseil citoyen. Ça, c'est la loi de 2014 et c'est vraiment très encadré. C'est pour les quartiers prioritaires politiques de la ville, j'y reviendrai. Mmh. Et pour tous, on a le conseil participatif. Donc là, c'est quel que soit l'endroit où on habite, à partir de 16 ans, si on a envie de contribuer au mieux vivre ensemble dans la ville, on peut participer. Donc là... la difficulté, c'est que parfois, on a des habitants qui sont très experts dans les dossiers, très experts dans leur élocution, dans leur prise de parole. Et donc, la loi de 2014, elle dit « je me concentre sur les quartiers prioritaires politiques de la ville parce que si je suis, moi, habitant d'un quartier prioritaire avec un accès à la langue plus délicat, je vais sûrement pas oser prendre la parole. » Et donc, pour redonner le pouvoir d'agir aux habitants, il faut les aider. Donc c'est une espèce de politique de discrimination positive, on va l'appeler comme ça. Bien sûr, l'enjeu pour nous, c'est que ce soit pas que ça, et qu'une fois que la personne est à l'aise, etc., elle se sente autorisée tout le temps à participer, à prendre sa place.
Et est-ce que je me trompe si je dis que le conseil citoyen, on est tiré au sort?
Oui, ça en fait, c'était là, c'est une compétence que j'ai récupérée plus récemment, mais l'adjointe en charge précédemment avait souhaité qu'on respecte à 100% la loi qui parlait d'un tirage au sort sur liste... tu vois, même pas sur liste volontaire. Ça, c'est vraiment le respect de la loi. La difficulté, c'est qu'en fait, c'est très compliqué. On a tiré plus de 20 fois le nombre dont on avait, entre guillemets, besoin d'habitants. Et finalement, on s'aperçoit que même comme ça, on a du mal à convaincre les habitants de venir. Et quand ils viennent voir, il y a une certaine lourdeur administrative, donc ils restaient. Donc c'est un vrai...
Ils ne restaient pas, excuse-moi.
Oui, c'est ça. Ils ne restaient pas. D'accord. Forcément dans ces instances. Ils ne revenaient pas. Par contre, ceux qui ont joué le jeu et qui se sont un peu accrochés, je vais le dire comme ça, mais en fait, ils sont toujours là et ils ont appris plein de choses et voilà, j'ai encore des témoignages de sympathie et d'envie de poursuivre pour ce nouveau mandat. Alors, quand tu m'as posé la question de participer, j'ai répondu sur les instances. Mais il y a bien sûr aujourd'hui tout ce qui va de la ville vers l'habitant, c'est-à-dire toutes les concertations qu'on va nous lancer, ville, pour aller... dans le cadre d'une politique thématique, pour avoir l'avis de l'habitant. Et ça, c'est l'agence qui s'en occupe aussi, aux côtés des services techniques. Par exemple, en ce moment, on a un vrai débat et une concertation large sur la mobilité, notamment autour du vélo.
D'accord, tu peux nous parler justement de l'agence. Alors, est-ce que c'est assez atypique quand même au niveau national, cette agence?
Oui, on est la seule ville à avoir fait ce choix-là sur la démocratie participative. À Mulhouse, on n'a pas un service municipal qui s'occupe de ces questions-là. On a une agence de la participation citoyenne. Donc, c'est une régie personnalisée, donc c'est une structure publique. L'avantage, c'est qu'elle a un conseil d'administration autonome. Pour Mulhouse, c'est 15 personnes. Moi-même, en tant qu'adjointe en charge, je suis présidente. Moi, j'ai été élue par le conseil d'administration en tant que présidente. On est 8 élus, y compris des élus d'opposition. Donc là, dans les groupes d'opposition, sur ce mandat, il y en a 3.
D'accord.
Donc, sur les 8 élus, on a 3 élus d'opposition. Tu vois, c'est comme ça qu'ils s'appellent sur le papier. C'est pas du tout l'état d'esprit, donc je vais y revenir là-dessus. Et 7 personnalités qualifiées. Le président du conseil de développement, un représentant de l'État, notamment sur la dimension politique de la ville, représentant du monde associatif, bien sûr des habitants. Donc voilà, un collectif de 15 personnes. L'idée, je le dis toujours, ce conseil d'administration, c'est pas tant de voter les quelques délibérations qu'on a à passer, c'est surtout un lieu de débat et d'échange d'expérience.
D'accord.
Parce que c'est des thématiques qui évolue de jour en jour. Les habitants sont, je ne sais pas si on peut dire plus exigeants, mais ils sont plus aguerris, ils ont envie d'autre chose. Les réseaux sociaux ont aussi modifié les rapports. Il y a des postures qui ont évolué dans les services techniques. Donc, c'est vraiment tous les jours qu'il faut remettre le travail sur le métier. Et ça, j'estime que ce n'est pas l'adjointe seule, ce n'est pas les agents de l'agence seuls, c'est à plusieurs.
D'accord. Toi, pour toi, qu'est-ce qu'elle apporte justement par rapport à d'autres façons de faire dans l'autre ville? C'est quoi? Elle est plus neutre ou justement ça permet d'avoir un débat plus riche ou
Oui, c'est exactement ça.
D'accord.
C'est-à-dire que je dis toujours, pour moi, l'agence, c'est un pied dedans, dans la collectivité, dans son organigramme, tu vois. Pas finalement tout à fait dans son organigramme, mais les agents qui sont mis à disposition de l'agence sont des agents ville. Donc, bien sûr, un pied dans la collectivité, mais également un pied au dehors. Et ça lui donne on n'est pas vécu comme
légitimité.
Oui, c'est ça, au service de tous.
D'accord.
Et d'ailleurs, le programme de démocratie participative à Mulhouse, il s'appelle Mulhouse c'est vous, pour justement enfoncer le clou sur le pouvoir d'agir des habitants. Okay. Enfin, je parle souvent d'habitants, mais il y a aussi tous les acteurs associatifs qui sont de côté et qui permettent de potentialiser les envies et les actions des habitants.
Super. Moi, mon idée avec ce podcast, c'est de comprendre un peu comment on fait émerger l'intelligence collective. Et j'ai encore envie de creuser avec toi, même si tu en as déjà parlé, la différence entre le conseil citoyen et le conseil participatif et la différence quand vous animez. Citoyens, c'est des personnes qui sont donc tirées au sort. Elles viennent donc de façon volontaire, mais peut-être moins engagées en tout cas que dans les conseils représentatifs. Comment ça se passe en termes d'engagement, justement? Comment vous gérez ça?
Alors, en fait, on a entre guillemets exclu l'élu, quel qu'il soit, dans le conseil participatif et dans le conseil citoyen. En revanche, il y a toujours un agent de la ville pour aider justement les habitants à faire émerger les projets et surtout à les faire se concrétiser. Parce que la difficulté, c'est bien sûr le passage de l'idée d'abord de l'un à l'idée de tous et après au projet et à sa réalisation. Et ce schéma-là, si on parle d'intelligence collective, il est excessivement lent, il est fragile, et donc on estime que si on met pas des moyens humains de la collectivité pour le faire advenir, on va pas réussir. Et si on ne réussit pas, et si on ne donne pas des preuves de l'efficacité de ces dispositifs-là, on décourage les habitants qui y ont cru, et on peut pas avancer. Donc c'est toujours un jeu subtil, un équilibre subtil, et pour nos équipes sur le terrain, c'est très difficile, entre je t'aide, je vous aide je ne fais pas à votre place. Donc c'est la temporalité on dit souvent que la temporalité d'un habitant, c'est très différente de la temporalité d'une collectivité. C'est vrai. Quand on est un habitant, on se rend pas compte de ce que représente l'installation d'une poubelle. Tu vois, c'est un sujet excessivement prosaïque, mais ça démontre que entre le moment où on dit bien sûr il faut une poubelle là, ok. Et l'organisation dans le planning des équipes, la commande de la poubelle, l'installation de la poubelle, c'est X services de la ville qui sont à la manœuvre. Et il faut bien sûr la ville, pourquoi là et pas là? Est-ce que demain on n'a pas un projet qui fait qu'on la met là aujourd'hui, mais demain elle sera plus à sa place, etc. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions techniques que doit, que doit se poser la collectivité. Mais bien sûr, l'habitant, lui, il semble évident que c'est maintenant et que demain, ce sera réglé. Et puis, les coûts aussi que ça engendre. Voilà, donc c'est...
Là, c'est les équipes qui facilitent ça, qui animent
exactement.
Ça. Et leur rôle, c'est ça, c'est pas de dire ou de faire à la place, mais de permettre que
à
ça...
À l'habitant, c'est aussi autant de pédagogie. Ce
ouais,
temps
de pédagogie,
long, c'est aussi de la pédagogie. Et en fait, l'intérêt de ne pas perdre les habitants en cours de route, c'est de ne pas avoir à réapprendre à tous ce chemin-là. En revanche, l'enjeu qui est derrière, la difficulté qui est derrière, c'est qu'une fois qu'on réussit, c'est comme on donne envie aux autres de monter dans le train et de récupérer le passé, ce qui a été fait avant, de comprendre où on en est, etc.
Ça, tu parles des citoyens eux-mêmes?
Oui, pour les citoyens, oui, exactement. Oui, pour les agents, c'est plus facile parce
d'accord.
qu'ils ont une culture
ah ouais.
technique. Mais tu disais de l'intelligence collective. Moi, je pense que ces projets-là, ils réussissent si l'élu a compris qu'il fallait perdre un peu de pouvoir finalement pour en gagner quelque part, parce que la décision elle est plus légitime, mieux portée. Donc c'est un élu qui en termes d'image est plus apprécié. Alors je sais pas du tout mon prisme de lecture, mais en fait c'est rassurer l'élu sur le fait qu'au bout
d'accord.
du bout, il a intérêt à rentrer dans cette dynamique-là parce que c'est une satisfaction personnelle incroyable que de voir des habitants heureux et des équipes techniques. Mais sur l'équipe technique, c'est de se dire, moi ingénieur, je perds peut-être un bout de ma légitimité technique, mais j'y gagne tellement parce que le projet, à l'arrivée, il est le projet de tous. Et aux citoyens, le rassurer sur le fait que ce sera toujours son idée, son projet, leur idée, leur projet. Et il ne s'agit pas pour la collectivité ou pour l'élu de dire, regardez comme j'ai réussi. Il s'agit de dire, regardez comme grâce aux habitants, on fait de Mulhouse une ville, et pour les autres collectivités, pareil, une ville plus agréable à vivre, une ville où les gens, où tout le monde a sa place. L'intelligence collective, c'est, à mon avis, c'est ça. Chacun trouve sa place.
Et là, je me dis, parce que l'intelligence collective, c'est quelque chose, bon, moi, ça me parle, ça me porte, j'y crois, je fouille, je creuse. Je vois que c'est pas facile. Et là, quand on t'entend toi et que tu disais, ben voilà, depuis 1980, enfin, les années 80, on a commencé ça. Et aujourd'hui, on sent que c'est vraiment encore un travail fort que vous faites. Parce que là, je pense que vous avez quand même réussi de belles choses. Et tu dis, c'est difficile de quand même quand on a réussi, de continuer dans cette...
C'est ça. Il faut toujours embarquer plus de monde. Et en fait, on embarque. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi le risque de faire de nos habitants qui nous suivent, etc., des habitants un peu professionnels, un peu experts, qui à ce moment-là, eux-mêmes, peuvent être des barrières pour d'autres habitants.
Ouais.
Donc quand je parlais d'équilibre subtil, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a... Et la difficulté, souvent, quand on dit on va concerter des habitants, ok, mais lesquels, qui... Et moi, je suis toujours très soucieuse de la façon dont on communique, parce que je voudrais que tout le monde se sente autorisé à... Et quand on entend de beaux discours sur le pouvoir d'agir en disant « la porte est ouverte, venez », en fait, souvent, les freins, ils sont pas forcément du côté de la collectivité, ils sont aussi à l'intérieur de chaque habitant à s'autoriser, à penser qu'ils peuvent y aller, qu'ils ont une légitimité à parler. Donc,
Et là, c'est aussi de la pédagogie, de la communication.
Exactement.
Il y a des freins, en fait, qu'on a tous, je pense, même.
Et Sophie, ça me fait penser à quelque chose sur ce temps long. On avait organisé d'ailleurs avec un conseil à l'initiative d'un conseil participatif, donc d'habitants, au moment du grand débat, ils s'étaient dit non, c'est pas possible, qu'on ne prenne pas notre place dans ce grand débat. Donc la ville avait facilité l'organisation des grands débats sur les thèmes proposés par l'État, mais eux avaient choisi la démocratie locale et les équilibres entre participatif et représentatif, et ils avaient fait venir un professeur de droit suisse qui nous avait expliqué
oui.
comment se faisait la démocratie participative en Suisse. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, ça fait 200 ans qu'ils travaillent tous les jours leur projet. Et donc, ils ont installé au fur et à mesure du temps des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et il expliquait, par exemple, c'est que la fameuse votation sur les minarets, qui avait fait hurler, bien sûr, nous, les frontaliers, et au-delà de la France et d'autres pays très attachés à la démocratie, en disant, mais c'est quoi ce sujet? En fait, il avait dit, quelque part, en Suisse, il n'y a pas à avoir peur de ces sujets-là, parce que ceux qui ont proposé les minarets, ok, ça c'est le temps 1, mais demain, ceux qui vont vous proposer contre les minarets auront la même possibilité de s'exprimer. Et donc, c'est pas, tout n'est pas figé. Et si on est en effet l'intelligence collective, je pense que bien sûr ce sont des processus, si on essaye de se donner un peu de temps, un peu de perspective, alors je parle pas de 200 ans, mais on se dit qu'en fait l'important c'est peut-être des petits pas, il faut simplement qu'ils soient dans le bon sens, et s'il y en a dans le mauvais sens, comment on a les moyens de refaire chemin dans l'autre sens et de toujours être vers le, de tirer tout cet ensemble vers le haut.
Et du coup, ça permet justement de garder cette démocratie. Parce
qu'on a... Ça relativise nos échecs et ça permet de garder l'espoir parce que c'est vrai qu'il faut, il faut toujours... Il y a des jours, honnêtement, où je suis très déçue de ce qu'on a produit, où je me dis tant d'énergie pour si peu de résultats. Et aujourd'hui, on est à la... Voilà, on est au début d'un mandat et je me rends compte à quel point dans notre équipe, il y a une volonté cette fois d'y aller vraiment. Donc tout ce qu'on a semé, tous ces petits cailloux, toutes ces petites pièces de puzzle, peut-être que là, si on est plusieurs élus à le porter, et je ne nie pas le rôle et le pouvoir d'un maire, et Jean Rottner, Michel Lutz sont des maires très engagés sur ces dynamiques-là, mais même le maire, ça ne suffit pas. Il faut que l'équipe derrière, et que ça devienne un sujet pour l'équipe. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'équipe pour faire ça, donc je suis très optimiste en ce début de mandat. Si j'étais sage, je devrais dire optimiste, mais voilà.
D'accord.
Je ne suis donc... pas toujours raisonnable.
Et ouais, du coup, le temps, je reviens un peu à l'histoire, mais ça a permis en fait aussi d'éduquer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas grave, les élus, c'est ça, parce qu'il y a une petite
oui,
crainte.
Oui, exactement. D'accord. Oui, je pense qu'il y a une crainte. Il y avait dans le précédent mandat des élus qui étaient là depuis plus longtemps, qui avaient une certaine idée du rapport. Alors, ça, sans nier une seconde la qualité de leur travail, c'est pas ça.
D'accord.
C'est l'état d'esprit, en fait, ils se disaient, mais il n'y a aucun problème, j'ai bien compris les messages, donc je vais travailler, c'est moi, j'ai été élu. Donc maintenant, on a été élu sur un programme, à nous de le dérouler. Voilà. Et moi, je dis, le temps s'est accéléré. Le programme qui était celui, par exemple, de 2014, pensé en 2013, il avait peut-être besoin régulièrement d'être remis, réinterrogé. Ça ne veut pas dire tout barrer et tout recommencer, mais réinterrogé à la marge, avec les habitants, avec les acteurs sur le terrain, en se disant, voilà, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Et c'est à ce titre-là que la démocratie participative est une tâche, je vais l'appeler comme ça, passionnante. Voilà.
Et toi, tu y
crois? C'est jamais fini.
Okay. Tu y crois donc au niveau local et au niveau national? C'est des choses qui sont, alors, on peut parler de la convention citoyenne pour le climat, mais aussi.
Oui, alors je pense qu'en fait, j'y crois à tous les étages parce que, voilà, à tous les échelons. En revanche, je pense qu'on la fait pas tout le temps de la même façon. Et l'avantage d'être une ville ou d'être un élu local, c'est d'avoir les pieds sur le terrain, d'être en contact direct avec des habitants. Je vois bien quand on est sur une collectivité comme le département, la région ou l'État, il s'agit bien sûr pas de nier tous les possibles, mais je crois pas que ce soit complètement les mêmes. C'est des grands cadres. Nous, on est dans le... C'est pour ça d'ailleurs qu'on est une collectivité où on a expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois qu'on avait une idée, on se demandait si on n'avait pas quelques habitants avec qui la tester.
D'accord.
Mais on n'a pas toujours fait toutes les choses à l'échelle de la ville complète, du moins pour ceux qui nous écoutent. Mulhouse, c'est plus de 110 000 habitants. Donc, il y a des choses qu'on a fait, qu'on a décrétées et qu'on a faites à petite échelle. L'échelle d'un quartier, l'échelle d'un secteur, en voisinage, voilà.
Est-ce que c'est des choses qui n'y a pas justement se diffusent aussi?
Enfin, même quand on parle de petite échelle, après, je pense qu'il y a une fierté de l'habitant, des quelques habitants, et puis on a les réseaux sociaux aussi pour donner à voir les réalisations, valoriser les habitants, les acteurs.
Et du coup, les quartiers alentours s'emparent aussi de cette...
Oui, alors, nous, je ne l'ai pas dit, mais donc on a 6 conseils participatifs à l'échelle de la ville, et idem pour les conseils citoyens, et on organise régulièrement, à peu près tous les mois, tous les 2 mois, en fonction des calendriers, mais des temps de rencontre entre représentants de chaque conseil pour se dire, ah tiens, ben nous, c'était super, on a fait ça, je vous raconte.
D'accord.
Ça, par contre, on va tester, si vous le faites chez vous, faites plutôt comme ci et pas comme ça, le calendrier, voilà. Donc, on fait systématiquement, on dresse systématiquement des bilans partagés de nos actions et qu'on remet dans des perspectives de, et pour demain, quelle suite?
Et on apprend, comme je vois, c'est toi qui commences à apprendre en marchant.
Ben oui, j'y crois beaucoup et je crois aussi à des maillons. Je trouve ça horrible. Trop souvent, je trouve que dans certaines politiques publiques, on a des choses comme ça, des opérations spot, qui n'ont ni avant ni après. Et moi, je veux que tout soit relié, les choses soient les événements, les actions, et prennent du sens parce que reliées les unes aux autres. Et s'il y a un maillot qui est plus faible, ben c'est pas grave, en tout cas, il est là aussi.
Et quand tu dis sens, ouais, c'est vraiment ça, c'est justement de le faire émerger, pour créer, passer à l'action avec les citoyens, et en plus de tirer un fil avec différentes actions, c'est ça qui donne le sens à une...
Exactement, et c'est ça qui fait réseau, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense qu'une ville de notre taille est une ville idéale, parce que objectivement, alors on ne peut pas dire qu'on connaît tous les acteurs, etc., mais on a un réseau suffisamment dense pour se dire que si on a quelqu'un qui veut faire quelque chose, a priori il va trouver une porte d'entrée pour le dire et à ce moment-là être, entre guillemets, récupéré par notre réseau pour pouvoir l'aider à aboutir et le mettre en relation avec les gens qui vont lui permettre de...
Et quand tu parles de porte d'entrée, alors je voulais aussi parler de ce thème-là, de la civic tech, des plateformes numériques pour permettre, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais justement aux citoyens de, d'être plus proactifs ou plus proches de vous. Est-ce que les portes d'entrée dont tu parles, c'est ça, ou est-ce que c'est
pour être
plus le terrain aujourd'hui?
Pour être très honnête, je pensais plutôt à des êtres humains, c'est-à-dire t'en parles à ton voisin, tu en parles au centre socioculturel à côté de chez toi, etc. Donc à l'association, au club de foot, ou je sais pas quoi. Donc en fait, je pensais plus à de l'échange parce que
c'est comme ça que ça se passe.
Je pense que pour nous, le présentiel reste. En 2014, quand je suis arrivée, vraiment, on commençait à dire le numérique va prendre le pas. Aujourd'hui, pour nous, c'est toujours à peu près sur les concertations, 2/3 de présentiel, 1/3 par le numérique, avec quand même quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on se parle après la crise sanitaire, et à Mulhouse, ça n'a pas été un vain mot, c'est vraiment, ça a été, on a connu des jours où on a senti que Mulhouse était une ville morte, on est quand même encore un peu martyr du Covid, beaucoup de familles ont été touchées, etc. Donc, et là, dans ces moments où il n'y avait plus... entre guillemets, âmes qui vivent dans les rues, et ben dans le même temps, les réseaux sociaux et les plateformes nous ont permis de monter des collectifs, parce qu'on a, bien sûr, il n'y a pas eu d'association, qui ont été d'une efficacité redoutable. Je pense aux couturières solidaires, je pense autour de la fabrication de visières, je pense à autour de la team Fabrice. Il y a eu des collectifs jusqu'à 400 personnes qui, tout d'un coup, les scouts, qui ont aussi donné la ville, dépanné en voisinage, etc. Et là, notre plateforme Mulhouse C'est vous a été un vrai relais et d'information et de création de solidarité de voisinage.
Ok, du coup, oui, quand le lien humain n'était plus possible, finalement, c'est là qu'elle a pris tout son rôle voilà. Et qu'elle a pu amplifier des.
Alors, c'était un lien humain, et c'est toujours des liens humains. Hein, pour derrière la machine, c'est quand même pas des ordinateurs qui se parlent. Donc, il y a toujours le lien humain. Par contre, on est revenu finalement peut-être à l'époque du téléphone, à travers des outils de gentil. Et tu vois, on a animé une page Facebook qui s'appelait Mulhouse Résiste,
oui.
Jusqu'à 7700 membres. Donc voilà, c'est que tout d'un coup, quand il n'y a plus que ça, ben, les gens retrouvent ça.
Après, c'est peut-être pour moi aussi une bonne nouvelle, je sais pas, de dire que justement que Mulhouse a permis d'avoir des lieux de rencontre. On n'a pas forcément toujours besoin de cette plateforme numérique parce que vous avez peut-être, c'est au fil de ces toutes ces années d'expérience, justement permis que dans différents endroits dans la ville, on puisse remonter l'information et agir directement, quoi.
C'est tout l'enjeu. L'agence est aussi un lieu d'accueil du public. On a une maison des associations qui s'appelle le Carré des associations, qui est aussi un lieu d'accueil du public. On a développé des partenariats dans les centres socioculturels. On a à Mulhouse des grosses structures. Il y en a 8 sur le territoire. Donc voilà, on se dit qu'objectivement, on a maillé. Après,
aujourd'hui, le citoyen qui a une idée, pas facilement, mais il arrive à remonter cette idée,
c'est le vœu qu'on formule et c'est à ça qu'on travaille tous les jours. Et tout à l'heure, on parlait de sens. En fait, ce qui est intéressant, c'est une espèce de trame narrative, c'est-à-dire que les gens puissent comprendre d'où l'on vient, où on est et où on veut aller, et donc s'engager dans quelque chose qui leur dit juste, tu as ta place, prends ta place, voilà. Et on n'a pas besoin d'être BAC+5 pour trouver sa place, pour exprimer son avis. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment tu parlais de l'intelligence collective. Voilà. Ce que le mot collectif prenne du sens et que tout citoyen, toute personne vivant sur ce territoire puissent s'exprimer et participer.
Aujourd'hui, il y a quand même encore des barrières psychologiques chez les gens ou des blocages.
Oui, c'est pas. Et puis il y a des expériences qui ont été plus ou moins réussies, donc ils circulent toujours. Oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Donc, on nous donne pas toujours, tu vois. Moi, je revendique le droit à l'erreur, hein, mais il y a des habitants qui sont pas toujours très généreux de ce côté-là et qui ne l'accordent pas.
Bah, je me posais la question en prenant des notes. Comment justement vous, enfin, je pense que ça peut en effet aussi générer de faux espoirs. Comment est-ce que vous gérez ça?
Sophie, objectivement, on apprend. On apprend aussi à garder de l'enthousiasme pour embarquer, mais aussi à dire tout n'est pas gagné. Tu vois. Et puis, moi je dis aussi, là, on met un coup de pas pour tout ce qu'on fait de faux, mais certains habitants pourraient aussi regarder comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont vraiment dans une logique de co-construction. L'intelligence collective, c'est le collectif, c'est pas moi, c'est comment de nos moi, on fait des nous. Voilà. Et on a encore, des habitants qui parfois sont arc-boutés sur leur jeu, sur une proximité immédiate de réponse à leurs problèmes. Mais non, on n'a pas de baguette magique. Donc, ça, c'est clair. Tout le monde doit contribuer. Et moi, ce que j'aime dans la démocratie participative, quand je suis en face d'habitants un peu remontés, c'est de leur dire, je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites avec nous pour trouver une solution? C'est pas la ville aléatoire.
Voilà. Responsabiliser aussi le citoyen. D'accord, ok. Et une dernière question un peu sur ce thème. Des fois, on dit démocratie participative, c'est de la communication. C'est on fait semblant, on fait croire que le peuple peut choisir, mais finalement, les décisions sont déjà au fond de tiroir quelque part. J'imagine que c'est juste que vous avez entendu. Comment vous... Enfin, c'est quoi le...
Alors justement, moi, je pense que quand on concerte ou quand on dit qu'on va partir, qu'on propose une participation, il faut toujours donner les règles au démarrage. Ça veut dire que sur certains sujets, on récolte juste un avis pour enrichir une première réflexion. Là, par exemple, c'est pas un exemple, dans un autre échelon, à un autre niveau, aujourd'hui on est sur une concertation vélo, on a lancé des pistes de façon très expérimentale au moment du déconfinement pour aider les gens qui voulaient plus prendre les transports en commun et éviter qu'on ait trop de voitures, encourager la pratique du vélo dans notre ville. Il y a des endroits où ça a fonctionné, il y a eu des endroits où on n'est pas content. Et ben, on a désinstallé, mais ça ne veut pas dire qu'on désinstalle de façon définitive. On désinstalle certains équipements ou certains tronçons pour revenir vers les habitants et avec eux sur des solutions qui agréent le maximum de gens. Donc, c'est ça, je crois qu'il faut être très au clair sur ce qu'on annonce, sur les règles du jeu. Et moi, je dis toujours, je plaide toujours pour que la démocratie participative soit poussée le plus loin possible, tant qu'elle est efficace. Par contre, c'est vrai que le maire a été élu pour prendre des décisions et que si à un moment, on est dans un timing où on dit bon, c'est bon, on a compris, mais là, on vous explique, on peut pas faire autrement, ou finalement, le maire tranche, et voilà, il tranche. Par contre, prendre une décision finale, c'est parfois difficile d'être seul à prendre la décision, donc c'est mieux la décision partagée. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la décision finale, après concertation, n'est pas celle que le maire aurait prise au démarrage du processus. C'est ça l'intelligence collective, et c'est là où on voit son efficacité.
Et moi, je pense qu'un des freins ou un des problèmes d'intelligence collective, c'est justement que des fois, on voit pas l'action et qu'il y a cette frustration des personnes qui ont participé.
Tu as raison.
Et qu'en effet, il faut qu'une personne aussi
en moment. En fait, au début, quand je suis arrivée, on voulait tellement faire de choses qu'on oubliait de revenir vers les habitants en leur disant on a tenu compte de vos remarques, de vos envies. Voilà comment on en a tenu compte. Ça, on a pu, on a pris. Ça, on n'a pas pu. Voilà pourquoi on n'a pas pu.
On explique.
Et souvent, on faisait ce travail-là, mais en interne, sans communication vers les retours vers les habitants. Et on a eu des critiques qu'on a écoutées et parfaitement légitimes. Voilà. Mais on apprend. Là aussi, on apprend en faisant. Donc,
pour moi, une difficulté dans la chose collective, c'est en effet en sollicitant les gens. Et tu disais qu'il y avait une pédagogie, leur apprendre aussi, peut-être nous apprendre d'ailleurs, à être moins sur le jeu et être vraiment dans le nous. La décision finale me plaît peut-être pas forcément à moi, mais c'est la décision du groupe. Et ce qui m'inquiète aussi, moi, par rapport à cette démarche démocratie, c'est que le poids des réseaux sociaux, finalement, une personne qui est pas contente, j'imagine qu'elle peut aussi détruire une action collective, finalement.
C'est vrai. Mais moi, je dis toujours qu'il faut raison garder. Et en effet, c'est pas parce qu'on a un habitant, du moins, on a un habitant mécontent, c'est 1 sur 110 000. Donc, en fait, comment on donne de la voix à la majorité silencieuse? Alors, je suis pas dupe. Dans cette majorité silencieuse, il y a du non-intérêt, mais il y a aussi des gens qui trouvent juste que c'est bien. Mais pour rebondir sur cette question, c'est assez intéressant parce qu'on était, quand on a lancé la plateforme numérique, il y a eu de grosses inquiétudes au niveau des élus et des services, au niveau de l'administration, en disant, mais s'il n'y a pas de modération, ça va devenir un bac à sable et le cap collectif qui propulse notre plateforme disait, mais on s'aperçoit très vite qu'il y a une autorégulation, et donc, bien sûr, qu'il y a un habitant pas content. Mais très souvent, même quand on n'intervient pas, il y a un habitant qui répond, attends, là, t'exagères parce que tu as pas vu ci ou ça. Donc, il faut aussi laisser de la place à l'autorégulation citoyenne. C'est pas facile. Parfois, on se dit, bon, moi, souvent, ça me démange d'intervenir, mais je ne le fais pas parce que j'attends que le débat citoyen se fasse. Ouais. Voilà. C'est pas, ça aussi, c'est une culture et un apprentissage pour les élus de pas se mêler de tout. Voilà.
Et finalement, on se rend compte que ça s'autorégule et que,
Après, il faut voir, en effet, comment jouent les médias, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, etc.
Oui, t'es d'accord.
Globalement, si on est un peu raisonnable, et qu'on réagit pas à chaud, eh ben, les choses se temporisent et ça veut dire aussi que dans ces réseaux sociaux qui sont des réseaux qui peuvent être des réseaux de l'immédiateté, il faut aussi apprendre à donner du temps au temps.
Ouais, super. Alors, on peut peut-être parler de l'événement qui va se passer à Mulhouse très très prochainement.
J'ai saisi l'occasion parce que j'aime pas le mot fier ou fierté, mais c'est vraiment un grand, grand bonheur nous allons accueillir donc 19, 20 et 21 octobre les rencontres nationales de la participation citoyenne après Bordeaux, Lille, Grenoble. Donc c'est une reconnaissance, bien sûr, parce que le travail qui a été fait à Mulhouse. Voilà. Et surtout, on devait les accueillir avant la crise sanitaire, donc tout était planifié pour juin, donc accolé aux dates de la fête de la musique. Donc on était parti pour faire une grande fête autour de la participation citoyenne. Et là, bien sûr, restrictions sanitaires oblige, on a une jauge à 500 personnes et on a des gens sur liste d'attente. Donc vraiment, on avait très peur de pas voir venir les gens vers Mulhouse, les gens sur ces thématiques dans le contexte actuel. Et la réponse, c'est qu'il y a à mon sens, il y a de nouvelles équipes qui ont très envie de se lancer sur ces thématiques, de partager de l'expérience, des réflexions. Et moi-même, je suis assez sollicitée en tant qu'élue pour échanger avec des élus plus récemment nommés sur cette délégation, sur ces compétences. Et c'est un grand, grand bonheur de voir que ça bruisse et que ça risque de bruisser au niveau national, mais à l'échelon local, et donc d'emporter l'adhésion de plus d'habitants et de plus de concitoyens. Moi, c'est peut-être pas une note optimiste pour finir, mais je pense que nos démocraties sont très, très en danger et qu'il faut pas jouer avec ça et que plus on sera nombreux à s'atteler à la tâche de défendre la démocratie représentative à travers la démocratie participative, et ben à mon avis, mieux ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants.
Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ça a évolué, ça veut dire qu'on vient vers vous et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça? Est-ce qu'il y a aussi un effet gilet jaune, quand même, où on s'est dit qu'il y a une envie aussi
juste une précision sur gilets jaunes. Moi, je suis très respectueuse des gilets jaunes du démarrage, des gens qui avaient des revendications sociales et qui vivent dans une précarité, c'est pas acceptable. Par contre, je mélange pas les gilets jaunes avec les casseurs qui ont complètement pollué et dévoyé le mouvement. Mais oui, je pense que là, tout d'un coup, il vaut mieux pouvoir parler, et nous, on a eu des relations avec des gilets jaunes en local, moi personnellement, parce que justement, il faut être à l'écoute. Moi, je dis toujours, notre pire ennemi, à mon avis, pour la démocratie participative, c'est le citoyen qui est dans son canapé et qui s'intéresse pas. Un citoyen qui est mécontent, c'est quand même un citoyen qui se manifeste dans le bon sens ou dans le moins bon sens du terme, mais c'est pas grave. À partir du moment où il y a de l'intérêt, c'est à nous à agir pour que cet intérêt, il se mette au service du collectif. Et de son problème, d'ailleurs, individuelle, parce que les Gilets jaunes, ils se sont retrouvés parce que tout d'un coup, c'était plus acceptable. Et ben, comment nous, il va bien falloir y répondre par une politique publique, donc une politique collective. Donc, je pense que ce travail-là, bien sûr, c'est très intéressant. Et ces élus qui arrivent et ces équipes qui veulent les accompagner, ben, bien sûr, c'est du 109.
Et vous avez vu, j'imagine, dans toutes ces années d'expérience, justement, des personnes qui partaient de rien, de zéro, et pas, qui n'ont pas, eu avant la chance de pouvoir proposer des choses, et voir que c'est utile, et qui aujourd'hui vont plus loin dans l'engagement. Enfin, je pense que
oui, on a des gens qui, aujourd'hui, ont défendu l'équipe municipale en disant « Mais moi, je sais tout ce que vous avez fait sur le terrain, parce que c'est aussi ça, c'est à s'engager, c'est aussi se rendre compte que, ben voilà, il y a des décisions qui peuvent nous passer au-dessus de la tête, mais aussi il y a des décisions qui nous concernent, au premier chef, devant chez moi. Mais de la décision qui me concerne, par exemple, sur le cadre de vie devant chez moi, mais pour le coup, ça peut me donner envie d'aller plus loin. Et donc, aujourd'hui, on a très peu finalement évoqué les conseils citoyens, et donc on a des habitants qui étudient avec nous les dossiers proposés au financement à la ville et à l'État, et qui émettent un avis, et c'est un avis sur lequel on se repose, on comprend. Bon, je ne l'ai pas dit aussi, mais on est la première ville et on a reçu un prix au niveau national parce qu'on a permis à des habitants de donner leur avis dans le cadre d'un marché public, ce qui est quelque chose d'excessivement complexe. D'ailleurs, ça a été des mois de travail avec le service juridique. Mais aujourd'hui, ils ont compté pour 22% dans la note finale d'attribution du marché.
Donc les citoyens ont pu voter, ou c'était choisir,
ils avaient une place dans la note finale, puisque en fait les marchés publics, quand ils sont attribués, ils sont notés sur des critères financiers, mais bien sûr aussi sur des critères techniques. Et là, il s'agissait d'une aire de jeu, donc j'ose penser que s'il y a un effet de cause à effet. Mais cette aire de jeu, elle a été ouverte cet été, elle n'a pas désempli. C'est un endroit magique dans la ville de Mulhouse.
Du coup, l'air leur ressemble peut-être plus,
Exactement. Et
c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et après, j'imagine que le fait de dire, de se rendre de nous en tant aussi de citoyens, je crois, de moi, de dire, les marchés publics, des fois, nous, on pense que c'est un peu,
peut-être pas très net. Bon, aujourd'hui, c'est tellement contrôlé que, bien sûr, c'est net. Intelligible pour le commun des mortels. Et nous, en tant que citoyens, bien sûr, on comprend rien. C'est très technique. Donc, est-ce qu'on a une place? Bah oui, on a une place, on l'a prouvé. Et ce qui fait plaisir, c'est que, à mon sens, l'air répond aux attentes des habitants, mais surtout, on a fait un numéro 1. Donc, ça veut dire qu'on pourra faire marché public numéro 2 ouvert aux habitants. C'est notre défi pour demain.
Belle conclusion peut-être, et du coup, ça peut aussi faire boule de neige au niveau national, voire international.
Bien sûr. Et c'est tout l'enjeu de ces rencontres. Ouais, c'est pas tant de dire « regardez comme à Mulhouse, moi ». C'est pas du tout l'ambiance. Moi, je réponds à tout. Et au contraire, on va animer quelques ateliers, mais c'est la prise de parole générale. Le programme, il est national. Mais c'est de se dire « waouh, ils font ça là-bas, j'y avais pas pensé. Comment ça enrichit ma réflexion ?» Parce que, voilà, c'est... encore une fois, tout va vite, rien n'est écrit. Partageons nos expériences en confiance et faisons de la France un territoire hautement démocratique.
Génial. Merci beaucoup, Cécile. Quand je finis, je pose 3 questions à mes invités. Donc, je vais te les poser à toi aussi. Et je voulais savoir si tu as un livre ou une autre super ressource que tu recommandes aux auditeurs. Ça peut être général, que tu aimes partager.
Mais en fait, je voulais partager un livre que je trouve magnifique, qui est un roman et autobiographique d'Albert Camus qui s'appelle Le Premier Homme. Et pourquoi ça? Parce que il me semble que dans la littérature et dans des postures d'écrivains, d'intellectuels engagés, on a aussi des ressources. Et que c'est pas toujours un livre sur comment faire de la participation demain dans sa ville. Il faut prendre parfois un peu de hauteur, c'est surtout des histoires humaines, et ce livre-là, je trouve que ça ressemble à un roman initiatique, le fait que Albert Camus soit issu d'un milieu très pauvre, mais qu'à force de travail et d'intelligence, il soit arrivé à avoir le prix Nobel de littérature, et au-delà de ça, parce que là, le prix Nobel c'est une chose, mais d'avoir engagé tant de combats humains, me semble être un homme remarquable, et donc j'avais envie de le citer là.
Super, merci beaucoup. Et deuxième question, une question sur la valeur. Qu'est-ce qui te porte au quotidien, la valeur centrale, l'idée centrale?
C'est sûrement le respect de l'homme et l'envie de défendre l'humain avec un grand H. Voilà, enfin, c'est très personnel, mais je suis pas croyante. Par contre, je crois en l'homme. Et je crois aussi, alors c'est à la valeur travail, c'est-à-dire l'engagement, on appelle travail, on appelle engagement, tu vois. Voilà, on fait les choses, on les fait en sincérité, on les fait vraiment. Ma mère disait toujours, quand j'étais jeune, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Et je crois que c'est une belle règle de conduite et j'essaye de faire ça au quotidien. Et donc, ça permet de belles rencontres. Voilà, je crois que des rencontres sincères. Peut-être qu'aussi, on pourrait citer la sincérité.
Génial, merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu peux nous donner, alors c'est ta meilleure définition ou ta définition tout court de l'intelligence collective?
Dans intelligence collective, il y a deux mots, c'est un peu trivial, mais celui qui me semble le plus important, c'est collectif. Voilà, il faut vraiment faire les choses ensemble, il faut qu'on arrête d'être des individualistes et de penser qu'on est plus intelligent, plus fort que l'autre. C'est pas vrai, il y a suffisamment d'exemples qui nous prouvent qu'on n'est rien tout seul. La crise sanitaire a remis tout ça, remis certaines pendules très très à l'heure. Ne l'oublions pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va mieux qu'il faut tirer un trait sur ce qu'on a appris là ou sur ce qu'on a dû réapprendre, ce qui est une catastrophe, on n'aurait jamais dû l'oublier. Et dans l'intelligence, il y a une théorie sur les intelligences multiples qui bien sûr me séduit et qui en gros dit que Mozart n'aurait pas pu être Einstein et Einstein ne pouvait pas être Mozart et pourtant on ne peut pas douter de leur intelligence. Donc c'est quoi l'intelligence? Je ne sais pas. C'est pas un QI en tout cas, je pense que c'est plutôt de l'humain encore une fois. Donc merci, allons-y ensemble et oublions-nous en tant qu'individus pour se recréer en tant que collectif.
Génial, bah, écoute, j'ai rien à rajouter, c'est parfait.
Merci.
Je te remercie pour ce temps. Je mettrai les liens dans la description du podcast, plutôt sur la ville de Mulhouse, c'est ça, t'as pas de site.
Ça peut être Mulhouse, c'est où? Ah non, bien sûr, non.
Voilà, tout ce qui est autour, d'accord. Donc tout sera dans la description du podcast pour regarder un peu de plus près ce que fait la ville de Mulhouse.
Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un plaisir.
Merci Cécile de ta sincérité dans ce partage d'expérience. Je retiens cette recherche permanente d'équilibre subtil et ce devoir d'écoute de tous les citoyens, virgule, de tous les points de vue. Je profite de cette conclusion pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement qui me font tellement plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire positif sur Apple Podcast ou sur LinkedIn, cela m'aide à faire connaître le podcast. Merci et à bientôt !